Bien, nous allons pouvoir reprendre. La dernière fois, je vous ai laissé au milieu du gué, en plein sommet de Camp David. On avait fait à peu près 6 jours en 1 heure, c'est mon record. Donc, nous sommes maintenant au 17 juillet. Et on commence à discuter de ce qui va être en fait l'élément central de Camp David II, la question de Jérusalem. Et là, il faut revenir sur un point fondamental qui est que le dossier était tellement brûlant pour la partie israélienne qu'il ne l'a pas étudié. Parce que toute étude préalable du dossier aurait impliqué des fuites. Et donc, des publications, scandales, utilisation par l'opposition, et ainsi de suite. Donc, ce n'est que le 17 juillet, en interne, que la délégation israélienne commence à étudier pour savoir exactement ce qu'il peut proposer sur Jérusalem. L'idée israélienne, c'est que d'un côté, on doit trouver une méthode pour virer le maximum de population arabe en dehors de la Jérusalem juive ou de l'État d'Israël, tout en conservant ce qui paraît l'essentiel pour Israël, parce que le danger pour les responsables israéliens, ce serait que si on annexe définitivement Jérusalem arabe à Camp David, ça fait 200 000 Arabes supplémentaires dans la population israélienne. Donc, on est prêt à trouver des formules ambiguës qui permettraient de ne pas intégrer la population arabe de Jérusalem en Israël, tout en conservant un contrôle israélien, et en conserver en revanche l'essentiel de la vieille ville et surtout le mont du Temple, le Haram Sherif, avec droit pour les Israéliens de prier sur l'esplanade des mosquées. On prépare ensuite les documents de travail demandés par les Américains. On est plutôt au durcissement des positions. De ce fait, pendant que les Israéliens étudiaient leur dossier, il ne s'est rien passé pendant la négociation au grand agacement des Américains. Ce n'est qu'après minuit que Barack communique à Clinton les nouvelles propositions israéliennes qui sont tout en retrait par rapport à celles qui avaient été avancées par Cher et Ben-Ami les jours précédents. Alors cette fois, c'est Clinton qui explose contre Barack. « Ce n'est pas sérieux, dit-il, je suis allé à Shepherdstown et vous n'avez rien dit durant 4 jours. Je suis allé à Genève et je me suis senti comme une marionnette chargée de faire votre offre. Je ne laisserai pas passer les choses comme cela. » Il a entendu 13 heures pour tout ça. Barack n'a qu'à aller vendre lui-même à Arafat le dossier. Lui, le président des États-Unis, n'ira pas remplacer Barack. Alors, Penaud, Barack regagne ses quartiers pour refaire son texte, qui consiste finalement à revenir aux propositions de Cher et de Ben-Ami, tandis que les Américains poussent Barack à aller plus loin dans la question des lieux saints. Sur cette base, Clinton ferait des propositions américaines aux Palestiniens. Et donc, sur ces bases de tous ces documents, Ross rédige de nouveau une série d'hypothèses de travail qui est soumise le matin du 18 juillet à Clinton, qui ensuite s'entretient avec Arafat, qui reste inébranlable sur Jérusalem-Est. Or, Clinton doit partir le lendemain pour le sommet des G8 à Okinawa. On passe alors au traitement de choc. Ross convoque les parties pour leur annoncer que si dans les 2 heures elles n'avancent rien de nouveau, le président proclamera la fin du sommet. Puis il leur propose ses vues dites personnelles. Ce n'est même pas des vues américaines, ce sont les vues de Denis Ross. Les quartiers extérieurs de Jérusalem-Est seraient sous souveraineté palestinienne. Les quartiers intérieurs auraient une large autonomie comprenant le développement urbain et la planification, la sécurité et le règlement des conflits. Dans la vieille ville, les quartiers musulmans et chrétiens seraient sous souveraineté palestinienne. Le Haram serait sous tutelle, custodianship palestinienne et souveraineté israélienne. Les délégués partent en discuter avec leur chef. Évidemment, les 2 heures ne sont pas respectées. La délégation israélienne propose aux Palestiniens une version plus restrictive de ce qui a été défini comme les vues personnelles de Ross, ce qui est évidemment rejeté. Chez les Palestiniens, la délégation est divisée entre ceux qui sont prêts à accepter les propositions personnelles de Ross et ceux qui le rejettent. Et Arafat, lui, se maintient en position de sphinx, ne se prononçant pas. C'est un chef, nous ne l'oublions pas. Barak Abba, alors, s'écarte à la surprise générale, y compris celle de sa propre délégation qui ne s'y attend pas. Annexion de 9% de la Cisjordanie contre un échange de territoire de 1% et maintien du contrôle de 15 à 20% de la zone frontalière le long du Jourdain pour une douzaine d'années. Les quartiers extérieurs de Jérusalem seraient sous souveraineté palestinienne, l'autonomie pour les quartiers intérieurs, la souveraineté palestinienne sur les quartiers chrétiens et musulmans, le Haram passerait sous la tutelle de la Palestine et du Maroc au nom de la conférence islamique, comité Al-Quds, mais resterait sous souveraineté israélienne avec à la clé une résolution du Conseil de sécurité fondant en droit cette répartition. On trouverait une solution satisfaisante pour les réfugiés. Tout ça étant toujours des propositions américaines. Les Américains sont enthousiastes. Ils y voient une percée décisive puisque pour la première fois, les Israéliens ont accepté le principe du partage de la ville sainte. Ils ne s'attendaient pas à une telle ouverture. Ce changement de position de Barak reste un mystère. Est-ce là la dernière offre qu'il a envisagée depuis le début ou s'agit-il d'une manœuvre consistant à faire porter la responsabilité d'un échec sur Arafat? Dans ses déclarations postérieures, Barak a répété à plusieurs reprises qu'il a surtout cherché à tester Arafat afin de montrer qu'il était un fanatique refusant de bouger. Mais on doit aussi estimer que ces déclarations ont surtout pour but d'invalider les propositions avancées à ce moment-là. Clinton doit donc persuader Arafat qu'il reçoit en la seule présence de son interprète, Gamal Elal, qui est un copte égyptien. Les autres négociateurs américains étant entassés dans la cuisine et essayant de suivre la discussion. Le président déploie tous ses dons de persuasion ainsi que les incitations financières. Le débat se concentre sur le sort de Jérusalem. Pour Arafat, le Palestinien qui abandonnera Jérusalem n'est pas encore né. Il n'est pas possible de transformer l'occupation en annexion. Son peuple ne peut accepter moins que les droits définis par les résolutions internationales. Clinton s'énerve. Dans la Bible, le lieu est appelé Mont du Temple parce que le temple juif y était. Il est impossible d'ignorer les droits des juifs sur le Mont du Temple. Arafat s'en tient à ce qu'il va étudier les propositions dites américaines avec son équipe. Un échange entre les négociateurs palestiniens et Madeleine Albright à propos de Jérusalem illustre l'incompréhension qui s'est installée entre les Américains et les Palestiniens. Voilà ce que disent les Palestiniens. C'est très compliqué. Vous parlez là d'un secteur qui a une superficie d'un kilomètre carré et vous proposez 5 systèmes différents de gestion. Ce n'est pas réaliste. Cela risque encore de compliquer les choses. Albright. Selon la formule présentée par Dennis, le simple Palestinien aura le contrôle de ses propres affaires, il n'aura pas la main d'Israël au-dessus de sa tête, lui n'a qu'à se faire de la notion de souveraineté. Yasser Abed-Rabo. Nous savons mieux que vous ce qu'est le désir d'un simple Palestinien. La souveraineté, pour lui, n'est pas une abstraction, mais la possibilité de vivre, de se déplacer librement, de prier librement, de se marier et de fonder une famille librement. L'expérience palestinienne est là depuis des décennies pour comprendre ce qu'est la souveraineté et la multiplicité des statuts juridiques. Le pinaillage sur les textes est une douloureuse leçon enseignée par une expérience historique particulièrement ravivée depuis Oslo. Dans la nuit, Arafat envoie des émissaires demander des précisions. Que veut dire exactement tutelle, custodianship? Que signifie une solution satisfaisante pour les réfugiés? Il lui faut aussi des précisions sur l'échange 9 contrats. Puis il propose que l'on procède à une pause pour lui permettre de consulter les chefs d'État arabes. Après tout, on décide du sort de Jérusalem. Les Américains refusent. Il faut qu'Arafat reste sous pression et qu'il ne capitalise pas les gains déjà obtenus pour exiger de nouvelles concessions. Tout cela a été pris en main par l'équipe du Conseil de sécurité nationale pendant la nuit, qui a laissé dormir Albright et Ross. Ce qui fait que quand les deux intéressés se réveillent et qu'ils ont vu que leurs concurrents ont bossé toute la nuit sans les prévenir, ils sont absolument furieux. Donc les dysfonctionnements se répercutent aussi à l'intérieur de l'équipe américaine. En fait, on peut déjà dire que les 3 équipes de négociation à Camp David II sont largement dysfonctionnelles. Au matin du 19 juillet, la réponse d'Arafat est négative. Ross explique que sa pratique habituelle d'Arafat est « il ne se décide qu'à minuit moins 5 », le problème étant que parfois sa montre n'est pas à l'heure. Clinton puis Albright le rencontrent à nouveau pour le faire bouger. Il ne cède pas, demandant aux Américains s'ils veulent venir à ses funérailles. C'est le sort qui attend celui qui abandonnera le Haram al-Sharif. Les Américains pensent alors s'adresser directement à leurs amis chefs d'État arabes, Moubarak, Abdallah II, Ben Ali de Tunisie, et le prince héritier Abdallah d'Arabie Saoudite, parce que c'est lui qui tient le pouvoir réel en Arabie Saoudite, le roi en présence étant trop malade pour gérer les affaires. Alors, les pauvres chefs d'État arabes sont largement pris au dépourvu, puisqu'ils n'ont pas étudié le dossier, qu'ils ignorent la carte de la ville sainte, où ils n'ont jamais mis les pieds. Clinton explique ainsi à Moubarak dubitatif que le dôme du roc se trouve à l'emplacement du temple de Salomon, ce qui d'ailleurs archéologiquement n'est pas vraiment prouvé, ça c'est un autre problème. Cela fait partie des cours de judaïsme que le président américain a l'habitude de délivrer à ses interlocuteurs arabes. De plus, on leur demande de pousser les Palestiniens à accepter un compromis sur la ville, mais on refuse de communiquer au chef d'État arabe le contenu du dit compromis. Le tout est fondé sur la curieuse arithmétique que Jérusalem est le premier lieu saint pour le judaïsme et le troisième pour l'islam. Le résultat est plutôt contraire. Les Saoudiens pressent Arafat de ne pas céder sur Jérusalem. Cette affaire menée de façon totalement maladroite témoigne de la totale insensibilité de l'équipe américaine aux préoccupations des musulmans. Dans un nouvel entretien entre Clinton et Arafat, le ton monte. Les droits religieux du judaïsme n'ont pas de sens pour un musulman. Arafat va même jusqu'à dire que le temple n'était pas à Jérusalem, mais à Naplouse. Il fait certainement allusion au mont Garizim des Samaritains, ce qui ne dit rien au protestant bibliste qu'est Clinton, qui doit connaître des Samaritains que la parabole du Nouveau Testament. Arafat aurait même mentionné que les anciens Hébreux ne résidaient pas en Palestine, mais dans la péninsule arabique, voire au Yémen. En fait, Arafat reprend là les thèses d'un historien libanais bien connu, Kamal Salibi, 1929-2011. Tout cela est incompréhensible, voire complètement scandaleux, pour l'équipe américaine totalement judéo-chrétienne. Le seul arabe, Elal, est donc copte. Inversement, Arafat semble méconnaître les traditions islamiques concernant l'histoire des Juifs, les Israéliates, puisque les traditions islamiques rappellent que c'est un Juif converti qui a tracé le lieu où les mosquées devaient être construites. Et justement, enfin, on reviendra sur la question, le calife romain lui a dit « Attention, tu veux le faire là, mais en fait, ça doit être là, parce que là, tu es trop juif. » Donc, il est bien entendu qu'au moment de la création du haram, les musulmans savaient parfaitement que le lieu saint juif s'y trouvait. C'est ce que rapporte la tradition islamique. Et ce que Arafat ignore ou cherche à ignorer, ça, c'est un autre problème. Il faut ajouter à tout ça l'influence chez les Américains de la franc-maçonnerie américaine. Puisque le mythe fondateur de la franc-maçonnerie anglo-saxonne, c'est que la franc-maçonnerie a été créée par les bâtisseurs du temple de Jérusalem, par Salomon. Donc, quand les Arabes, les musulmans leur expliquent qu'il n'y a pas de temple, c'est tout un morceau de la culture américaine elle-même, bibliste et franc-maçonne, qui se trouve complètement interloqué dans le débat. Barak. Alors, pour terminer, pour rendre les choses plus compliquées, c'est qu'en plus, vous avez la question de la critique historique. Il faut rappeler d'ailleurs que la critique historique est liée du conflit des religions. C'est-à-dire que chaque religion a utilisé la critique historique pour montrer que l'autre religion était fausse, sans s'apercevoir qu'en utilisant l'argument de la critique historique pour montrer que l'adversaire était dans l'erreur, alors bon, on pouvait retourner l'argument contre soi-même. Et c'est comme ça qu'à l'époque moderne est née la critique historique des textes religieux. Alors, dans la question des lieux saints, etc., il y a une critique historique qui a une version très différente de ce qu'implique une lecture littéraliste de la Bible. Alors, je ne veux pas m'étendre tout cela, puisque de toute façon, vous avez l'excellent travail, remarquable travail de mon collègue Thomas Romer sur ces questions, et vous avez tous les podcasts de Romer qui traitent, entre autres, de ces questions de critique historique. Et en gros, pour simplifier ce que dit Thomas, qui est beaucoup plus subtil, il y a toujours eu un temple depuis la plus haute antiquité à l'endroit de l'esplanade, mais que le temple avec un T majuscule comme lieu central du judaïsme n'apparaît qu'aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Et si vous retournez l'argument historique, les mosquées, elles sont là depuis 13 siècles. Alors, c'est pour ça que les arguments de droit historique se neutralisent toujours de ce point de vue. Et de toute façon, ils n'ont aucune importance. La critique historique n'a aucune importance par rapport à la foi des uns et des autres. Donc, Clinton a retardé d'un jour son départ pour Okinawa. Barack a commencé l'opération de communication destinée à faire porter les responsabilités de l'échec sur Arafat, le tout en violation des accords préalables. Mais Clinton ne veut pas arriver au G8 sur un échec, il espère encore arriver à une solution. Il joue sur les mots, expliquant à Barack qu'en son absence, on va continuer de discuter sur la base de propositions américaines, et à Arafat que l'on continuera de discuter sans précision supplémentaire. Le Palestinien croit comprendre qu'il s'agit de Jérusalem. Donc voilà une petite caricature israélienne sur le passage de flambeau entre Clinton et Albright. En l'absence de Clinton, c'est à Madeleine Albright de mener les débats. Mais le rythme est beaucoup moins effréné que les premiers jours. En plus, les négociateurs sont épuisés et en profitent pour prendre un peu de repos. Le 20 juillet, Barak découvre qu'Arafat n'a pas la même compréhension de l'ordre du jour que lui et l'accuse de mauvaise foi, alors qu'il s'agit d'une ambiguïté créée par Clinton afin de permettre la continuation du sommet. Ross doit donc s'activer pour trouver une base commune permettant la reprise des négociations. Les entourages de Barak et d'Arafat veulent pouvoir entamer des discussions informelles. Ce n'est qu'avant le dîner que Barack s'incline. Madeleine Albright annonce que les idées américaines sont invalidées. Pour le premier ministre israélien, c'est plutôt un soulagement. Il pense qu'il est allé trop loin. Pendant le repas, il reste morose et refuse d'échanger un mot avec les Palestiniens. Le lendemain, il se tient à l'écart, mais ne reste pas inactif. Il contacte par téléphone les amis d'Israël aux États-Unis pour qu'ils fassent pression sur la Maison-Blanche et s'adresse aux candidats aux élections présidentielles, ainsi qu'à Hillary Clinton en campagne sénatoriale à New York. Il demande que les Américains adressent un ultimatum à Arafat, où il accepte les propositions faites, où les États-Unis cessent de traiter avec lui. Il fait aussi dire à la presse israélienne que certains de ses négociateurs vont trop loin dans les abandons, c'est-à-dire qu'il est en train de tirer dans le dos de ses collaborateurs. Les Palestiniens font pour la première fois une proposition cartographique. Au lieu de former des blocs homogènes, ce qui implique l'absorption de nombreux villages palestiniens, les groupes de colonies juives sont présentés comme des enclaves reliées par des routes. Et c'est au tour des Israéliens de revendiquer la continuité territoriale. De plus, l'offre palestinienne ne représente que 2,5% de la Cisjordanie et 30-35% des colons. La contre-proposition israélienne n'est pas plus acceptable pour l'autre partie. Annexion de 13,3% de la Cisjordanie et maintien indéfini de l'occupation pour 13,3%. Les Israéliens sont pratiquement revenus sur leur position de départ et les Palestiniens répondent que la vallée du Jourdain doit être intégralement leur et que toute annexion doit être compensée par un échange de territoire. Alors, il faut rappeler, pour bien comprendre toute la complexité des discussions, c'est quand on vous parle de blocs homogènes de colonisation regroupant 80 ou 90% des colons, ça implique l'annexion des villages arabes avoisinants. Sinon, il n'y a pas de bloc. C'est-à-dire qu'on se trouve dans la situation entre 70 et 80 000 Palestiniens, on ne sait plus où ils se retrouvent. Si le territoire annexé par Israël, deviennent-ils citoyens israéliens? Ce n'est pas précisé dans la discussion. Le 22 juillet, Barak s'absente pour faire une excursion au site historique de la bataille de Gettysburg. Albright, en compensation, puisqu'on est diplomate, amène Arafat dans sa résidence secondaire à ses proches et lui présente ses petits-enfants. Les pauvres. Le chef de la CIA, George Tenet, arrive pour aborder les questions de sécurité. Il trouve particulièrement impressionnantes les concessions faites par Barak. Ross mène les discussions informelles. On envisage d'autres solutions pour le Haram, comme un partage de la souveraineté, mais on se heurte à l'attachement passionnel des deux parties sur le mont du temple Haram et Shérif. Le 23 juillet, les Palestiniens semblent accepter l'idée d'un partage de Jérusalem-Est à condition de pouvoir disposer d'une continuité territoriale et de la souveraineté sur le quartier arménien de la vieille ville. Inversement, Barak réduit l'offre présentée par les idées américaines. Néanmoins, cela paraît comme un signe encourageant d'avoir deux approbations ou au moins deux contre-propositions. En ce qui concerne les annexions israéliennes, on se heurte à la difficulté de définir un bloc qui comprennent le maximum de citoyens israéliens et le minimum de Palestiniens, tout en formant un ensemble homogène. On n'aborde pas, comme je vous l'ai dit, le sort des Arabes annexés. Seraient-ils citoyens israéliens, résidents étrangers sur leur terre, expulsés? Pour la question des réfugiés, Israël refuse de reconnaître la responsabilité. Il est prêt, sur la base de considérations humanitaires, d'en accepter de 7 à 2 à 20 000, par exemple sous un chapitre de réunification familiale. Les autres doivent recevoir des compensations financières et devenir des résidents définitifs des pays hôtes, à qui on n'a pas demandé leur avis, ou s'installer dans l'État palestinien. La partie palestinienne reste ferme sur les principes, à la fois de la responsabilité israélienne et de l'application du droit au retour. La priorité doit être donnée aux Palestiniens du Liban. En termes pratiques, les deux parties s'accordent sur la mise en place d'un mécanisme international chargé de résoudre la question. Dans les discussions sur la sécurité, le débat est particulièrement âpre. Les Israéliens veulent avoir le droit d'utiliser en cas d'urgence les routes de Cisjordanie pour couvrir la vallée du Jourdain, mais c'est eux qui définiront la situation d'urgence. L'État palestinien doit être démilitarisé tout en participant à la lutte antiterroriste. Son espace aérien doit être à la disposition d'Israël. Darlan se fait un défenseur intransigeant de la souveraineté palestinienne. Et le soir du 23 juillet, Bill Clinton revient d'Okinawa. Barak a établi avec son équipe les lignes principales d'un accord destiné à mettre fin au conflit. Un État palestinien indépendant et souverain, entretenant des relations économiques de libre-échange avec Israël, démilitarisé mais disposant d'importantes forces de police, il y aura contiguïté et non continuité territoriale sur 89% de la région considérée, avec un passage sûr entre la Cisjordanie et Gaza et le droit d'installer sur son territoire les réfugiés palestiniens. Alors revenons un instant dans les textes qui sont tous en anglais. On a constamment l'usage soit de continuous ou de continuity, donc en français continuité ou ininterrompu, tandis que on a en opposition contiguous ou contiguity, contigu voisin, mais qui peut signifier aussi attenant et juxtaposé. Ce qui ne trompe pas, c'est quand les Israéliens parlent des blocs de colonisation, ils parlent de continuité, et quand ils parlent de territoire palestinien, ils utilisent contiguité. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Et tout ce vocabulaire continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, au sens le plus littéral des termes, c'est-à-dire des négociations qui sont actuellement menées jusqu'au printemps. Donc, tout le monde est d'accord pour faire payer la réinsertion des réfugiés palestiniens par un fonds international, c'est-à-dire par les autres, de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars. Dans le projet israélien, la capitale de l'État palestinien serait Al-Quds et regrouperait les faubourgs arabes de Jérusalem à partir d'Abu Dis. Les quartiers arabes intérieurs et ceux de la vieille ville auraient des relations administratives avec Al-Quds, mais resteraient sous souveraineté israélienne. Un secteur du quartier musulman à proximité du Mont du Temple serait sous contrôle palestinien. Le Mont du Temple resterait sous souveraineté israélienne, mais les Juifs auraient le droit d'y venir prier et les Palestiniens en conserveraient la tutelle. Les deux parties s'engageraient à ne pas se lancer dans des fouilles archéologiques. Cette position est partiellement en retrait par rapport aux idées dites américaines, mais laisse place à des éléments de négociation sur l'ampleur de ce qui est concédé aux Palestiniens et sur la durée de la présence israélienne dans les secteurs sous souveraineté palestinienne. Les négociateurs israéliens ont le sentiment de faire une offre particulièrement généreuse. Du côté palestinien, on craint en permanence que le nouveau statut proposé ne soit qu'une légalisation sous une autre forme de l'occupation. On est décidé à défendre farouchement la souveraineté palestinienne et l'attachement au lieu saint est indéfectible. Néanmoins, on est prêt à accepter des échanges de territoire, mais sur la base d'une stricte réciprocité. Donc là, une caricature israélienne représente le retour de Clinton avec Madeleine Albright à la cuisine. Il dit well. Donc Bill Clinton est revenu plein d'allant et décidé à en finir. Après avoir reçu séparément Barak et Arafat, il préside un petit comité où l'on doit aborder ce qui est considéré comme le plus facile, les questions de sécurité. Darlan et Abou Allah représentent les Palestiniens. Le premier se montre particulièrement ferme. Il rejette la demande israélienne de 3 stations de préalerte en Cisjordanie, n'en acceptant que 2. Pour ce qui concerne l'espace aérien palestinien, les Israéliens en demandent d'en avoir le contrôle tout en proposant une coordination avec les Palestiniens. Il en est de même pour le spectre électromagnétique, ce qui comprend les fréquences pour le téléphone portable. C'est pour ça que c'est important. Comme on ne progresse pas sur ces sujets, on renvoie le tout à une réunion d'experts. Les militaires israéliens veulent avoir 5 positions de prépositionnement de matériel militaire à l'intérieur du territoire palestinien. Les Palestiniens rejettent le principe et proposent le stationnement temporaire des militaires américains. Même problème pour la définition de la situation d'alerte. les Palestiniens disent que c'est aux Américains de définir qu'il y a une situation d'alerte, et pas aux Israéliens. Mais l'armée israélienne ne veut pas dépendre des États-Unis. Et Clinton n'est pas sûr que son opinion publique suivrait un tel engagement sur le terrain. Et on continue sur les problèmes d'accès. Qui contrôle les postes de douane? Qui contrôle l'entrée des gens de l'extérieur sur le territoire palestinien? S'il y a un contrôle israélien, c'est peu un État palestinien indépendant. S'il n'y a pas de contrôle, les Israéliens trouvent que leur sécurité se trouve remise en question. La difficulté des sujets repose sur la différence des argumentaires. Les Israéliens pensent que leurs exigences de sécurité sont de nature technique, tandis que les Palestiniens en perçoivent les conséquences en matière de souveraineté. Dans leur calcul, si on additionne les demandes israéliennes, il ne restera plus que 82% de la Cisjordanie. De plus, ils ont l'amère expérience des dizaines d'années de mesures techniques israéliennes conduisant à leur dépossession. Dans la nuit, on progresse quand même par le renvoi des comités d'experts et surtout des appels à deux tierces parties, mais on n'arrive pas à trancher la question de la présence militaire israélienne sur la vallée du Jourdain. On n'arrive toujours pas, d'ailleurs, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Après quelques brèves heures de repos, on passe à la question des réfugiés le 24 juillet. Les deux parties conservent une approche dogmatique, les Palestiniens en demandant le droit au retour, les Israéliens le refusant. En dépit des appels pressants des Américains, on n'arrive pas à définir des nombres et un échelonnement. Les Palestiniens notent la contradiction israélienne. Peut-on vouloir à la fois conserver des dizaines de milliers d'Arabes de Jérusalem et prendre de nouveaux Arabes habitant dans les zones de blocs de colonisation, tout en refusant le retour d'une fraction des réfugiés palestiniens au nom d'impératifs démographiques? En dehors de la question démographique, tout à fait vitale, se pose celle des responsabilités du drame de l'exode de 1948 et au-delà de la légitimité du sionisme. Reconnaître que le retour des réfugiés de 1948 et de leurs ayants droit remet en cause la nature juive de l'État d'Israël, n'est-il pas admettre que l'expulsion des Palestiniens était la condition indispensable pour la réalisation du but du sionisme? La dynamique créée par le retour de Clinton est maintenant totalement épuisée. Pour l'équipe américaine, il serait vain de tenir une nouvelle réunion commune sur les territoires et les frontières. Clinton préfère recevoir les parties séparément. Cher et Ben-Ami sont les premiers. Ils s'en tiennent rigoureusement à leur ligne précédente, annexion de 10 à 10%, représentant 80%, vous connaissez tout le dossier. Clinton les interroge, montrant maintenant une connaissance approfondie des dossiers. Ainsi, il leur fait dire que les habitants arabes des zones annexées conserveraient un lien avec l'État palestinien, ce qui n'est pas très clair. La réunion avec les Palestiniens est plus courte. Quand ils s'en tiennent à leurs cartes représentant une annexion de 2% de la Cisjordanie sur la base d'un strict échange de territoire en taille et en qualité, le président préfère arrêter là la discussion et en profiter pour faire une sieste. Il faut dire qu'ils sont épuisés, ils travaillent la nuit. Hein. Ils ne dorment que 4 ou 5 heures par nuit au grand maximum depuis le début du sommet. Ross en profite pour étudier avec Ben-Ami la possibilité d'une solution à Jérusalem. On entre dans les subtilités de vocabulaire avec une gradation dans les degrés de souveraineté. Une souveraineté limitée sur les quartiers intérieurs, un complexe compound souverain dans la vieille ville, une juridiction souveraine sur le haram. Comme le dira plus tard l'un des négociateurs palestiniens, il faudrait disposer d'un GPS sur soi pour négocier un tel statut. À son réveil, Clinton approuve les idées de Ross et décide de les présenter à Arafat. La réunion commence à 21h. Le chef palestinien répond qu'il ne peut pas paraître comme un traître. Un jour ou l'autre, Jérusalem sera libérée. Cela provoque la colère de Clinton. Je cite. « Barak a fait tellement de concessions, vous n'en avez fait aucune. Vous auriez pu recevoir la souveraineté sur les quartiers chrétiens et musulmans de la vieille ville, la juridiction pleine et entière sur le haram. Il s'agit d'une question politique et non religieuse. Vous avez manqué une occasion en 1948, vous en avez raté une autre en 1978, et voilà que vous recommencez. Vous n'aurez pas d'État. Les relations qui lient l'Amérique et les Palestiniens prendront fin. Le Congrès va voter l'arrêt de l'aide qui vous est accordée. Vous serez traité comme une organisation terroriste. Personne au Proche-Orient ne vous regardera en face. Les musulmans seront ce que vous pouviez devenir, les gardiens du haram, et fonder un État et que vous avez refusé. Barak a fait un long chemin, vous n'avez pas bougé. Vous êtes contenté de fourrer dans, les mains dans votre poche, de fourrer dans votre poche ce que Barak vous donnait. Saeb Erekat répond au nom d'Arafat. Monsieur le Président, cela ne vous coûte rien de nous accuser, de nous menacer. Nous n'avons pas de lobby susceptible d'influer sur la situation à Washington. Nous comprenons vos alliances stratégiques, votre alliance avec Israël. Qu'Israël est partie prenante de la vie politique aux États-Unis. Nous ne sommes pas hostiles à Israël. Nous avons reconnu Israël. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous sommes contre l'occupation israélienne. Monsieur le Président, vous êtes le leader du monde. Ne menacez pas mon président. Traitez-nous avec justice. Le peuple palestinien, sous la direction de Yasser Arafat, a accepté et reconnu l'État d'Israël, ce qui occupe 78% de la Palestine historique. Jamais dans l'histoire des Palestiniens, un leader n'a reconnu ainsi l'État d'Israël et accepté de fonder l'État sur 22% de la terre. Or, à présent, vous dites qu'Arafat n'a pas fait suffisamment de concessions. Il a accepté les 22%, car la précédente administration américaine, celle d'avant aussi, et de l'Europe avec elle, nous ont dit qu'elle soutiendrait ce qui est vrai pour la paix. Eh bien, c'est précisément ce que j'attends de vous, Monsieur le Président. Les Israéliens veulent nous arracher des concessions, tantôt pour satisfaire leur opinion publique, tantôt pour des raisons historiques, tantôt en réaction à des sondages d'opinion, parfois pour leur sécurité et pour la psychologie du peuple israélien. Je ne peux pas. Je ne peux pas négocier un jour pour les colons, le lendemain pour l'histoire, un autre pour les généraux, pour la psychologie des juifs, ensuite pour le caractère exceptionnel du peuple juif. Je ne peux pas. Je tente de négocier la paix. Le peuple palestinien résiste à l'armée israélienne. Il ne se laissera pas intimider par l'occupation. Si nous ne tenons pas la paix, Monsieur le Président, s'il n'y a pas de paix entre Israéliens et Palestiniens, il n'y aura pas de paix pour personne. Ce sommet a permis d'accomplir beaucoup. Je n'avais jamais osé penser qu'un jour je discuterais de Jérusalem, des frontières, de la sécurité, du problème des réfugiés avec un gouvernement israélien. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne laissez pas le sommet échouer. Si vous le présentez comme un échec, la lumière s'éteindra dans la région et je ne sais pas quand elle reviendra. Le sommet est maintenant terminé, mais personne ne veut le reconnaître. On doit maintenant préparer la suite. On se met d'accord pour que Clinton rencontre Ben Ami et Erekat pour aborder cet aspect. Ben Ami reconnaît que le sommet a pour la première fois traité du fond des choses, mais du fait de l'absence d'accord, il risque de conduire à un effondrement du camp de la paix en Israël. S'il est rendu public que Barak a fait de très importantes concessions sans rien obtenir en retour. Erekat admet l'existence d'avancées de la part des Israéliens, mais marque que les Palestiniens doivent avoir la souveraineté sur tous les quartiers arabes de Jérusalem et sur le Haram. Clinton sort une carte de Jérusalem et se lance dans une dernière tentative de partage de la ville sainte. On évoque la constitution de régimes spéciaux pour les différents quartiers qui aboutirait à une sorte de souveraineté partagée. Ainsi, les Palestiniens auraient une souveraineté religieuse sur le Haram et les Israéliens le reste de la souveraineté. Mais personne ne peut ou ne veut céder sur la question de la souveraineté. On envisage alors de mettre la question de Jérusalem de côté pour aborder les autres dossiers. Mais la question des réfugiés n'a pas été réglée. Ben Ami démontre l'impossibilité d'une telle perspective. Israël aurait abandonné 90% de la Cisjordanie sans avoir obtenu ni la fin du conflit, ni le règlement des deux questions les plus brûlantes, Jérusalem et les réfugiés. Pour Erekat, une solution partielle conduirait à une situation de fait où ces deux dossiers seraient gelés de façon permanente. Il reste à présenter ses idées à Barak et Arafat, dont on connaît l'opposition fondamentale à de telles perspectives. La séance est levée. Les Américains tendent un dernier plaidoyer auprès d'Arafat. À 3 heures du matin, il répond négativement, ce qui évite à Barak d'avoir à se prononcer. Le chef palestinien demande la poursuite des négociations. À 4 heures du matin, le Premier ministre s'entretient avec Ross et lui demande un soutien politique américain pour affronter tout aussi bien son opposition en Israël que la probable détérioration des relations avec les Palestiniens. La liste comprend une déclaration marquant clairement que toutes les idées représentées à Camp David ont été invalidées, une nouvelle élévation des relations stratégiques entre Israël et les États-Unis, un soutien militaire renforcé, un transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem afin de montrer que c'est Barack qui l'a emporté dans la question de Jérusalem, un engagement à combattre une proclamation unilatérale de l'État palestinien et à s'opposer à son admission à l'ONU. Ross lui répond qu'il soumettra la liste à Clinton, mais qu'il ne faut pas résumer la situation à une option brutale entre la paix et la guerre. Pendant que le président américain se repose, Miller rédige un projet de déclaration finale qui sera soumis à Barack et non à Arafat. L'équipe américaine s'aperçoit alors qu'il n'y a pas eu réellement de rencontre trilatérale entre Clinton, Arafat et Barack depuis le début du sommet. Si cela se sait, cela fera très mauvais effet du point de vue de la com. La rencontre a lieu à 10h30 du matin, le 25 juillet 2000. Les participants sont sombres, mais s'engagent à poursuivre le processus de paix. Arafat et Barack approuvent le projet de déclaration. Elle est ensuite lue en public par Clinton. Entre les 11 et 24 juillet, le premier ministre Barack et le président Arafat se sont réunis à Camp David sous les auspices du président Clinton dans un effort destiné à parvenir à un accord sur le statut permanent. Tout en étant incapables de réduire leurs divergences et de parvenir à un accord, leurs négociations ont été sans précédent, aussi bien dans leur étendue que dans les détails. Partant des progrès réalisés à Camp David, les deux parties sont tombées d'accord sur les principes suivants pour guider leurs négociations. 1. L'objectif des négociations est de mettre un terme à des décennies de conflits et de réaliser une paix juste et durable. 2. Les deux parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour conclure le plus tôt possible un accord sur tous les dossiers liés au statut permanent. Enfin, et on reprend les clauses habituelles et Arafat est heureux qu'on ne lui fasse pas porter la responsabilité de l'échec. Donc là, nous venons de faire le descriptif narratif heure par heure du sommet. Vous comprenez que c'est important de le faire et que c'était aussi un trop gros, un énorme travail de pouvoir rétablir la chronologie exacte de Camp David II. Mais maintenant, il faut raisonner sur les causes et responsabilités. Ces raisons d'échec ont fait l'objet d'intenses débats et controverses aux portées historiques évidentes. Comme pour tout événement historique, il faut déterminer à la fois les causes dites profondes, structurelles de longue durée, et les causes dites immédiates, conjoncturelles du temps court, qui ne sont pas moins importantes. Les premières appartiennent à la logique même des accords d'Oslo, voire aux étapes antérieures du processus de paix depuis Camp David I. Il existe une contradiction fondamentale entre la volonté d'établir des relations de confiance entre les deux antagonistes, qui seraient devenus des partenaires, et la nécessité de n'aborder les questions essentielles que dans le cadre du règlement final. Jérusalem, les territoires, les réfugiés. Bien entendu, aucune des parties ne pouvait rester inerte sur ces sujets durant la période dite de transition, attisant ainsi la méfiance de l'autre partie. Dans la perspective de Rabin et de Peres, il n'y aurait pas de droit au retour des réfugiés, ni de changement de statut de Jérusalem. Quant à la définition territoriale, elle se ferait sur la base d'une nouvelle version du plan Allon, constituant une entité palestinienne, pas nécessairement un État, enclavée et probablement tronçonnée à l'intérieur d'un territoire d'Israël élargi. Les Palestiniens s'en satisferaient puisqu'ils verraient une amélioration de leur sort matériel et moral avec la reconnaissance de leur existence. De toute façon, l'immense disproportion dans les rapports de force les conduirait à s'incliner devant l'inévitable. Ça, il faut bien comprendre et terminer d'un mythe d'un Rabin ou d'un Peres qui aurait pu faire la paix, et contrairement à leur successeur. Pour les Palestiniens, c'est bien l'affaiblissement de l'ONP qui a conduit à accepter les accords d'Oslo. Mais ils avaient cru comprendre que la territorialisation de la cause palestinienne s'inscrirait dans une Cisjordanie qui serait tout à eux, à l'exception des colonies juives. Ils auraient donc eu 90% de la Cisjordanie à la veille de la négociation finale. Il était assez clair qu'Israël abandonnerait des colonies de la bande de Gaza qui constituaient une lourde charge sécuritaire sans représenter un enjeu stratégique ou historico-religieux. La déception a été terrible quand ils se sont vus imposer une division de la Cisjordanie en zones A, B et C, faisant du domaine de l'autorité palestinienne un archipel de lieux urbains sans aucune continuité territoriale, alors que gauche et droite israélienne intensifiaient la colonisation, multipliant les faits accomplis et rendant toujours plus difficile le règlement final. De surcroît, les différents engagements israéliens n'ont pas été respectés, en particulier les redéploiements prévus par Oslo II, qui n'étaient pas achevés à la fin de la période intérimaire. La seule arme des Palestiniens était la négation complète de la totalité des faits accomplis depuis 1967, y compris à Jérusalem, ce qui leur permettait l'articulation entre la période intérimaire et le règlement final. Dans la perspective israélienne acceptée par les Américains, les accords d'Oslo abolissaient toutes les références juridiques précédentes et rendaient toutes les questions négociables. On admettait simplement une référence aux résolutions 242 et 338, dont on se refusait de donner une exégèse. Il n'était pas question d'appliquer les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité qui rendaient nuls et non avenus tous les faits accomplis israéliens, y compris Jérusalem, sans parler de celles de l'Assemblée générale de l'ONU qui reconnaissait le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. En quelque sorte, la perspective américaine n'était plus celle d'une occupation à laquelle l'on doit mettre fin, mais plutôt celle de l'aménagement d'une coexistence difficile. Les Palestiniens devraient être ainsi reconnaissants de pouvoir mener une vie un peu plus normale qu'auparavant. La solution par la négociation, tout à fait louable en soi, puisqu'elle signifie l'abandon du recours à la violence, était devenue un refrain qui faisait comme si on oubliait la disproportion des rapports de force et en même temps l'impossibilité de transformer la force israélienne en droit sans acceptation palestinienne. Autrement dit, le processus d'Oslo a fonctionné dans une absence totale de confiance entre les parties et surtout n'a pas engendré une logique de décolonisation. Les illusions israéliennes et américaines n'ont pu se maintenir que du fait de l'absence de négociations sur le statut final et en conséquence d'une impréparation totale à ce que pouvait comprendre ce règlement. Certes, si Peres l'avait emporté sur Netanyahou, les choses auraient pu se produire différemment, non pas parce que le leader travailliste aurait été plus colombe que son adversaire politique, mais simplement du fait de l'ouverture de la négociation sur le règlement final qui aurait impliqué un retour au réel. Or, la stratégie de Netanyahou avait été d'utiliser ce règlement final pour ne pas respecter les engagements pris durant la période intérimaire, d'où le blocage du processus et une débauche d'énergie diplomatique pour des enjeux dérisoires. Il est vrai que de toute façon, le but du chef de Likoud était de mettre fin au processus de paix pour arriver de fait à sa version d'une Palestine tronçonnée en cantons et soumise à un contrôle sécuritaire permanent. L'énergie de Barak aurait pu conduire à une autre dynamique, d'autant plus qu'il avait pour lui un soutien complet de l'administration Clinton. Mais il a préféré donner la priorité au règlement avec la Syrie, entraînant le président américain dans l'échec du sommet de Genève. En même temps, il s'est rendu compte qu'en raison du fonctionnement défectueux des institutions politiques israéliennes, gouvernement de coalition, politique, pratique systématique des fuites, il ne pouvait être question de préparer collectivement le règlement final. L'opinion publique israélienne ne pourrait accepter un accord comportant ce qui est ressenti comme des concessions douloureuses qu'à condition d'obtenir un acte consacrant la fin du conflit, mais en même temps, on est dans l'impossibilité d'énoncer au préalable la liste de ces concessions. Camp David II a été l'une des négociations les plus mal préparées de l'histoire. On avait réussi à convaincre les Palestiniens qu'on leur dressait un piège destiné à les forcer à accepter un règlement sous la pression conjuguée des Américains et des Israéliens. Ils étaient d'autant plus méfiants qu'ils avaient le sentiment d'avoir été trompés durant les négociations précédentes et que même la parole du président des États-Unis n'avait pas de réelle valeur. Les acrobaties linguistiques de Ross les avaient laissé un mauvais souvenir. Symétriquement, ils ne pouvaient préparer une liste d'abandons parce qu'ils n'étaient tout simplement pas pensables et surtout parce que le premier fait, les autres suivraient. Il leur était impossible d'entrer dans une logique de marchandage qu'elle s'arrêtait à admettre les présupposés israéliens et américains. Aucun pays arabe n'a été impliqué dans la négociation. Alors que Jérusalem est un enjeu essentiel pour les mondes arabes et musulmans, on n'a même pas été capable de leur communiquer le moment venu le contenu des propositions concernant la ville sainte. De même, on parle de généreuses indemnités accordées aux réfugiés palestiniens, tout en rendant clair que dans la grande majorité, ils resteront dans les pays hôtes alors que le statut de réfugié serait aboli. Mais on ne pense pas demander l'avis des pays concernés sans parler de leur rôle dans la gestion, dans la liquidation du dossier. C'est-à-dire qu'on veut traiter de la question des réfugiés sans discuter avec le Liban, la Syrie et la Jordanie, qui c'est là où sont les réfugiés. Il est caractéristique que les parties israéliennes et américaines aient eu le sentiment de faire des avancées majeures en proposant une division complexe de Jérusalem-Est, alors que la partie palestinienne, en dehors de son attachement passionnel à la ville sainte, ne pouvait avoir à l'esprit que l'exemple de Hébron, où la division de la ville avait abouti à un partage au détriment de la ville arabe et de l'accès au lieu saint. Alors que Barak présentait le désir de laisser prier les Juifs sur le mont du Temple comme une affaire mineure, l'exemple du tombeau des patriarches constituait un sinistre précédent pour les Palestiniens qui ont connu dans leur histoire tant de grignotages permanents de leurs acquis par des Israéliens au nom d'impératifs dites techniques ou d'aménagement de vie collective. De même, l'indécence de la constitution d'un État palestinien était de mettre fin à la pluralité des statuts juridiques palestiniens, habitants des territoires occupés divisés en trois zones, résidents de Jérusalem, arabes, israéliens, réfugiés. Les généreuses propositions créaient presque autant de nouveaux statuts juridiques que de quartiers arabes de la ville sainte. Sans parler de l'interrogation sur le sort des habitants arabes des blocs de colonisation. La vie quotidienne des habitants des territoires occupés est ponctuée d'autorisations et de permis, ne serait-ce que pour circuler. Rien n'a été avancé sur ce point dans la discussion. Comment maintenir Jérusalem comme ville unifiée et quelle sera la nature de sa séparation avec l'entité palestinienne? Les 1200 Arméniens de la ville sainte deviendront-ils des citoyens israéliens? Comment pourrait-il avoir des contacts alors avec les principaux foyers arméniens de la région que sont le Liban et la Syrie? Ce genre de question n'a pas été posé. Les propositions en question n'ont pas été l'objet de représentations cartographiques. En ce qui concerne la distribution de la Cisjordanie, les Palestiniens ont vu immédiatement un territoire tronçonné. Ross prétend que c'est une interprétation erronée, mais la carte d'une Cisjordanie relativement homogène qu'il présente dans ses mémoires n'a jamais été avancée à Camp David II. Il a toujours été question de territoire palestinien contigu et non continu, contrairement au bloc de colonisation juive. À l'impréparation s'est ajoutée l'absence de ligne directrice durant le sommet. Les Américains ont rapidement abandonné la méthode adoptée par Carter à Camp David I, un texte cadre passant par des rédactions successives au fur et à mesure des discussions. Il y en a eu 23 en 1978. On a constamment improvisé de façon brouillonne, sans véritable maître du jeu. On a cherché à contourner les difficultés plus qu'à les affronter. Aucune proposition israélienne n'a été directement formulée. Elles ont toutes été présentées comme venant de la partie américaine, rendant difficile pour la partie palestinienne d'en discerner la provenance exacte. La volonté de Barak de se tenir en retrait a fait que le sommet n'a pas été tripartite au plus haut niveau. Clinton a déployé son charme et son énergie. Il a montré une maîtrise étonnante des détails, au moins de certains. Il ne voit pas, par exemple, que les Palestiniens ont peur du précédent créé par le tombeau des patriarches à Hébron en ce qui concerne le Haram al-Sharif. Ce qui avait été défini au départ comme une autorisation à venir prier a été transformé progressivement en un partage imposé du sanctuaire. Du fait de cette situation, il n'existe pas de procès-verbal unifié du sommet. Certes, des preneurs de notes ont accompagné Clinton lors de ses principaux entretiens, mais ces derniers se sont tenus souvent à l'absence de représentants du département d'État. Personne sur le moment n'a eu une vue synthétique des débats. De nombreuses réunions n'ont pas fait l'objet de transcriptions écrites, d'où le souvenir contradictoire des participants. Les fameuses offres généreuses qu'Afat aurait rejetées n'ont jamais été rassemblées dans un document unique permettant d'en discerner l'unité d'ensemble. Mais l'échec n'est pas total. Pour la première fois, les vrais dossiers ont été abordés et les vraies difficultés cernées, ce qui aurait dû être fait avant. La colère américaine et israélienne contre Arafat s'alimente aussi bien de son manque de coopération que de la prise de conscience soudaine que le prix à payer pour un accord est beaucoup plus élevé que l'on l'avait estimé au départ. Mais dans l'immédiat, c'est Arafat qui devient la cible. Cela commence par une déclaration de Clinton au retour à la Maison-Blanche. Il reconnaît que la négociation était difficile et que des progrès significatifs ont été réalisés sur les principales questions. Mais il marque que Barack a fait plus d'efforts qu'Arafat. Je cite. Le premier ministre Barack a fait preuve d'un courage particulier, d'une vision et d'une compréhension de l'importance historique de ce moment. Le président Arafat a dit clairement qu'il était aussi engagé sur la voie de la paix. Fin de citation. Et ensuite, je cite, « La déclaration tripartite que nous publions affirme l'engagement des deux dirigeants à éviter la violence et des actions unilatérales qui compromettraient la paix et à poursuivre le processus de paix jusqu'à qu'il soit couronné de succès. » Dans la discussion avec la presse, Clinton est plus clair. Barack a fait des propositions audacieuses sur le statut de Jérusalem alors qu'Arafat n'a pas bougé. Il ne veut pas blâmer les Palestiniens, mais il doit complimenter les Israéliens. Cette déclaration est particulièrement mal appréciée du côté palestinien qui voit une violation de l'engagement pris de ne pas faire porter la responsabilité de l'échec sur Arafat. Pratiquement au même moment, Barack fait porter l'entière responsabilité sur les Palestiniens. C'est leur obstination à ne pas accepter un compromis sur Jérusalem qui a empêché la conclusion d'un accord et les dirigeants du monde arabe n'ont pas apporté le soutien nécessaire pour avancer. Ce qui va être martelé les jours suivants, c'est que Barack a fait des offres généreuses et qu'Arafat les a rejetées. En clair, il n'y a pas de partenaire arabe pour la paix. Dans cette action, il dispose de l'aide constante de l'administration Clinton, dont le premier but est de sauver Barack d'un effondrement parlementaire. Ainsi, le président américain s'adresse à la télévision israélienne le 28 juillet pour dire que Barack n'a jamais remis en cause les intérêts vitaux de la sécurité d'Israël. Il laisse entendre qu'il va renforcer la coopération entre Israël et les États-Unis, voire qu'il envisage un transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le message qui est passé implicitement, c'est que c'est maintenant aux Palestiniens de bouger. L'attitude de Clinton se comprend par son soutien indéfectible envers Barack, sa déception devant l'attitude d'Arafat qui n'a pas accepté ce qu'on attendait de lui, et la volonté de soutenir la candidature d'Hillary Clinton au siège de sénateur de l'État de New York, et secondairement celle de Gore à la présidence des États-Unis. Ce dernier va justement choisir le sénateur Joseph Lieberman comme colistier. C'est le premier juif à être candidat à un tel niveau politique et son soutien à Israël est total. L'inconvénient de vouloir porter secours aux soldats Barack en faisant porter l'essentiel de la responsabilité sur les Palestiniens et les Arabes, c'est que l'on affaiblit à chaque coup le camp de la paix en Israël. La première indication dans ce sens est l'échec de Shimon Peres à l'élection de la présidence de l'État d'Israël le 31 juillet. Il est battu par 63 voix contre 57. Le candidat du Likoud, Moshe Katsav, un opposant aux accords d'Oslo, a obtenu une large majorité. En revanche, une motion de censure n'obtient que 50 voix contre 50, loin de la barre des 61 voix. On va peut-être s'arrêter là. Je vous fais quand même un paragraphe ou deux de plus. Vous avez le droit à une prime, c'est le dernier jour. Les critiques faites à Barack sont nombreuses. Il a fait des concessions essentielles, en particulier sur Jérusalem, sans rien obtenir en contrepartie. Il a ainsi considérablement affaibli la position israélienne dans les négociations à venir. Son entourage répond de façon contradictoire que toutes les propositions de Camp David II sont maintenant invalides et que les Palestiniens ont accepté le principe de ne pas retourner aux lignes du 4 juin, puisqu'ils ont discuté sur la taille des blocs de colonisation qu'Israël conservera. Cela ne peut empêcher la démission de David Levy de la fonction de ministre des Affaires étrangères. On l'accuse de quitter un navire en perdition, mais lui explique sa démission par son refus de trop grandes concessions faites par Barack à Camp David, en particulier sur Jérusalem. De toute façon, il avait tenu à l'écart des décisions importantes et le fait qu'il ne parlait pas l'anglais avait rendu difficile sa participation aux grandes négociations internationales. Shlomo Ben-Ami reçoit l'intérim des Affaires étrangères tout en conservant le ministère de la Sécurité intérieure. La procédure parlementaire pour des élections anticipées est lancée, mais Barack bénéficie d'un répit de 3 mois du fait des vacances parlementaires, ce qui devrait lui donner le temps pour rebâtir une nouvelle coalition ou d'arriver à un accord de paix ou les deux. Mais selon les sondages, sa cote de popularité est au plus bas. Du côté palestinien, on s'abstient pratiquement de toute déclaration à la presse américaine. On est persuadé que de toute façon, elle est sous influence sioniste et qu'elle ne traitera jamais la question avec équité. En revanche, Arafat reçoit un accueil triomphal à son retour à Gaza. Il est l'homme qui a refusé de céder aux Américains et aux Israéliens. On l'appelle le nouveau Saladin. Ceux qui craignaient des abandons d'intérêts vitaux, comme Anan Achraoui ou Marwan Barouti, se rallient à lui. D'un seul coup, il a restauré sa popularité. Même Edouard Saïd reconnaît qu'Arafat a bien fait de ne pas signer, mais il craint que sa popularité retrouvée lui permette ensuite de capituler. Un sondage d'opinion montre que 60% des Palestiniens sont favorables à une confrontation violente avec les Israéliens en cas d'échec des négociations avant le 13 septembre. Le fait que des groupes de rabbins demandent l'édification d'une synagogue sur le mont du Temple accroît la tension. Le mufti de Jérusalem réplique qu'une telle décision provoquerait une guerre avec l'ensemble du monde musulman. Sous pression du gouvernement, la revendication est ajournée. Néanmoins, une tentative de juifs messianistes de s'introduire sur le haram provoque des incidents. Le Waqf interdit aux Israéliens d'entrer. En sanction, les autorités israéliennes interdisent aux touristes de visiter le haram, ce qui constitue une perte importante de revenus. Après 4 jours de fermeture, la situation revient normale. Donc c'est là où on nous a arrêtés. Je pensais terminer cette année, mais vous voyez, les Palestiniens et les Israéliens sont les êtres les plus résilients de la Terre. Et on n'arrive pas à les mettre dans les cases que l'on voudrait imposer. Donc je pense que l'année prochaine, je donnerai encore 4 à 5 heures sur la question de Palestine, puisque mon intention est toujours d'aller jusqu'à Taba. Janvier 2001, ce non-accomplissement, comme disait mon ami diplomate, parce que c'est, je pense que la césure, elle est à Taba, elle n'est pas à Camp David II. Et puis ensuite, normalement, selon toute prévision, enfin, vous verrez de toute façon le résultat définitif, on changera totalement de sujet pour passer sur quelque chose qui est dans l'air du temps, mais avec un siècle de retard, c'est-à-dire la fin de l'Empire ottoman, la Première Guerre mondiale et la naissance des États arabes du Proche-Orient, ce qui pourrait nous engager un cycle de près de 10 ans comme le précédent. Vaste sujet. Donc je voulais tenir à vous remercier pour cette année comme pour les années précédentes. Un dernier point, quand même, je reviens sur le cours sur lequel j'insiste. Je n'ai peut-être pas encore suffisamment insisté, mais ça va revenir dans le cours de l'année prochaine. La vraie pierre d'achoppement, là où la négociation a échoué, ce n'est pas les territoires. Ce n'est pas les réfugiés, parce que les réfugiés, on en a à peine discuté à Camp David. C'est Jérusalem. Et ce n'est pas Jérusalem, c'est le Haram al-Sharif. Le mont du Temple. Parce que là, vous aurez des discours en disant ils ont échoué à cause des réfugiés, à cause de la non-reconnaissance, etc., etc. C'est Jérusalem et c'est sur le Haram que la négociation a échoué. Mais ça n'a rien d'étonnant puisque c'est la Terre Sainte. Donc je vous remercie définitivement pour cette année. Je vous rappelle donc le 7 février. L'hommage à Gilles Weinstein et le 10 février, la conférence de M. Eldem Eldem sur l'Empire ottoman, la Turquie et la question des modernités.